Moi, je leur dis, c'est jouissif d'envoyer une facture. C'est jouissif. Parce que ça veut dire qu'on est fier de ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'on est content d'avoir fait ce qu'on a fait, qu'on sait qu'on a produit de la valeur.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Nathalie.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben, c'est plutôt sympa à toi d'avoir pensé à moi. Je suis ravie d'être là.
Alors, on va commencer avec la première question qui amuse beaucoup mes invités habituellement. C'est quel est ton animal totem ?
Oui, j'ai été obligée de réfléchir. Parce que finalement, des animaux totems, on peut en avoir plusieurs en fonction des périodes de vie. Et là, finalement, celui que j'ai trouvé auquel je m'identifie le mieux en ce moment, c'est la mouette rieuse. Alors, la mouette rieuse, pourquoi ? La mouette rieuse, parce qu'elle rit. Et le rire, ça me paraît indispensable dans la vie, et en particulier en ce moment. C'est-à-dire, on peut rire de choses gaies, et on peut rire de choses tristes aussi. Et c'est une bonne façon, ou de choses difficiles, c'est une bonne façon de prendre un petit peu de distance. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire, de la distance par rapport à ces émotions, en restant positif. Donc, il y a ça, évidemment. Il y a le fait de voler, la liberté, l'indépendance. Il y a la mer, il y a la Normandie, voilà, et puis il y a ce que j'appelle aussi les bruits du silence, en fait, quand on est dans la nature, au calme, on entend des bruits qui sont parfois assez forts, et le rire d'une mouette rieuse, ça peut être assez fort. Donc voilà, le bruit du silence, c'est-à-dire se reconnecter aussi aux éléments de la nature.
Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps ? Qui es-tu, Frédéric Clavel ?
Alors, Frédéric Clavel, c'est d'abord une petite fille, une fille, une femme, une mère, une amie, une femme qui est ambitieuse et qui est aussi généreuse. Voilà, je m'identifie comme ça. Avec des émotions, et justement ces émotions, elles peuvent être positives ou négatives, et c'est quelque chose que je travaille beaucoup, c'est-à-dire que pour moi ce qui est important, c'est de rester dans le positif, voilà, enfin de rester dans le positif, il faut accepter évidemment les émotions négatives, puisque ça peut être la tristesse ou la colère, et ce qui est important, c'est d'en sortir, voilà.
Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter ton activité en ce moment ?
Oui, mon activité, donc, c'est Fin Coach. Donc, je suis une femme qui a été très engagée en faveur de l'entrepreneuriat féminin, et aujourd'hui, je développe ma société qui s'appelle Fin Coach autour de trois piliers. Donc, premier pilier, je l'appelle Fin Coach le Hub. C'est un espace de travail partagé où on reçoit surtout des entrepreneurs solitaires pour rompre la solitude du dirigeant. On a quand même deux startups, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce sont des personnes des entrepreneurs qui travaillent à leur propre compte autour de deux axes, en particulier l'entrepreneuriat, et le deuxième axe, c'est tout ce qui est développement personnel. Moi, j'aime bien ça parce que finalement, un entrepreneur stable, il va avoir une entreprise pérenne. Donc, il y a une cohérence entre les deux savoir-faire qui sont développés au sein du hub. Et du coup, c'est l'introduction à mes deux autres activités, l'accompagnement des entrepreneurs, donc on appelle Fin Coach for Startups, avec de l'accompagnement individuel, et on va là-dessus jusqu'à la levée de fonds. Et ce qu'on fait, c'est probablement la partie la plus difficile, parce que c'est les premiers fonds levés. Donc c'est la partie, entre guillemets, la moins intéressante pour des leveurs de fonds, mais ce n'est pas comme ça qu'on s'identifie. Mais c'est la partie très importante parce que c'est la partie qui permet de démarrer et après d'aller grandir plus vite. Le deuxième volet de FinCoach for Startups, c'est le programme qu'on a lancé pendant le confinement, qui est un programme à 100% digital et puis qui a démarré vraiment de façon formidable, puisqu'on a fait trois saisons en 2020 et on a lancé un concours cette année pour 2021. Voilà, et on a pas mal de réponses de candidatures de très bonne qualité, ce qui nous fait plaisir. Voilà, un programme qui se déroule assez vite, en 2 mois, autour de 14 séances digitales. Et on a fait connaissance, donc c'est un programme qui limite le nombre de participants à 5, ce qui nous permet de bénéficier à la fois de l'accompagnement individuel et customisée des différents entrepreneurs, et à la fois de la force du collectif. À 5, il y a un esprit, une confiance qui se développe, la confidentialité reste là, et voilà, ensemble on est plus fort. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent des pairs aussi. À la fin des 14 séances, on se retrouve pour un bootcamp, voilà, où chacun présente son business plan, puisque c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à un business plan construit. Et on révise un petit peu tous les points un peu techniques qui auraient été trop vite vus. Et on a la dernière journée qui est jubilatoire, qui est une journée de pitch. Donc, négo, premier client, actionnaire, investisseur, partenaire, fournisseur. Voilà, donc c'est une journée vraiment à l'oral, un peu théâtrale, et voilà, pendant laquelle on fait intervenir une intervenante que tu connais aussi, qui s'appelle Josette Khalifa.
Oui, tout à fait.
Alors, je te donne le troisième axe, quand même, de travail. Donc, sur le développement personnel, il nous semble important que dans les entreprises, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, les salariés qui sont loin, il n'y a plus de rassemblement de lieux. Moi, je crois beaucoup à l'âme des lieux. Donc, il faut trouver l'âme de l'entreprise autre part que dans le lieu. Et donc, c'est très important de travailler cette joie au travail. Donc, on travaille autour de différents outils de développement personnel, dont Shinley, que tu connais aussi.
Dans l'entreprise?
Oui, dans l'entreprise.
D'accord. Alors, question fétiche que je pose à chaque fois, c'est de quoi rêvais-tu lorsque tu étais enfant?
Je rêvais d'égalité et de justice. Je rêvais d'égalité et de justice. Je me voyais avec une grande famille, mais voilà, je trouvais que c'était important. Il y a des choses qui me mettaient en colère. Hein. Voilà, la colère. Et donc, c'est de ça que je rêvais beaucoup. Voilà. Donc, une vie personnelle épanouie et famille, comme ça. Et puis, besoin de justice. C'est-à-dire, les choses autour de ce qui était, tout ce qui était castique, parce qu'on est dans un pays en France qui est assez castique, on ne s'en rend pas compte. Et moi, je viens d'un milieu, je dirais, bourgeoisie moyenne, donc ni le top du top, ni... j'ai une jeunesse assez heureuse et confortable. Hein. Mais j'ai été dans des lycées publics, donc j'avais accès à toutes les tranches de la population, de la société, ce qui était bien. Voilà, et donc il y avait des choses qui me gênaient, dans les comportements, et c'est quelque chose qui me gêne toujours et contre lequel je me bats, voilà.
Et ces valeurs là autour de l'égalité et de la justice, ce sont des valeurs dont tu as hérité?
J'ai pas l'impression qu'on m'ait parlé de ça. Les valeurs dont j'ai hérité, c'est vraiment, je crois, la simplicité, l'authenticité. Les valeurs vraies, les valeurs liées à la terre. Donc j'ai plutôt hérité de ça. En fait, j'avais une mère qui était infirmière et qui m'a beaucoup répété, on a un monde à son image. C'est-à-dire, si tu souris, tu vas avoir des sourires. Et si tu envoies des coups de pied, tu recevras des coups de pied. Et je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne philosophie de vie. Et une grand-mère, alors c'est vrai, je parle plus des femmes que des hommes. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et une grand-mère qui me disait, il faut user de tout et n'abuser de rien. Je trouve que c'était absolument génial. C'était une femme de tête qui avait repris l'affaire familiale au moment de la guerre de 14. Et voilà, donc c'est ça qu'on m'a transmis.
Donc une lignée de femmes à personnalité, à forte personnalité.
À forte personnalité. Après, les hommes, ils étaient très bien aussi, mais j'ai l'impression d'avoir plus hérité des femmes que des hommes. Pourtant, j'étais dans un monde très masculin parce que j'avais des cousins et des frères.
Alors justement, on se parlait des valeurs dont tu avais hérité. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que... Parce que ça fait vraiment référence à, comme tu l'as vu, hein, la ligne éditoriale du podcast. En fait, la question que je me pose et que je pose à chaque fois,
c'est l'indépendance.
C'est est-ce qu'on peut évoluer dans sa vie? Est-ce qu'on peut changer, évoluer, en restant fidèle aux valeurs dont on a hérité?
C'est une bonne question. Hein. est-ce qu'on peut changer fondamentalement? Moi, je pense qu'on est, on est qui on est, dès le départ. Est-ce que... Après, je pense qu'on a énormément de leviers pour évoluer. Il y a des tas de choses qui se travaillent. On pense pas toujours, par exemple, que le charisme, ça se travaille. Ça se travaille, le charisme. C'est la confiance en soi, ça se travaille. La timidité, ça se travaille. Je pense qu'on peut... C'est important d'être fidèle à soi-même et en essayant d'aller chercher, on a tous des forces et des faiblesses. Et donc, l'idée, c'est quand même d'aller chercher ses forces pour les diffuser. Ces faiblesses, c'est important aussi d'en avoir... Enfin, de toute façon, on en a tous, donc c'est pas que c'est important, c'est que... autrement, on s'appellerait Dieu, mais en fait, j'en connais pas. Donc, les faiblesses, il faut faire avec. Et si c'est des faiblesses, entre guillemets, de soi, ben, on peut progresser, on peut toujours progresser. Et si c'est des faiblesses qui sont liées à, justement, ou à des colères ou des choses comme ça, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Et justement, c'est ça la quête de ma mouette rieuse, c'est d'arriver à prendre la distance par rapport à ça ou à en rire pour relativiser et voilà, et transformer éventuellement en force, quoi. Prendre conscience de nos faiblesses, c'est très important. C'est peut-être en ça qu'on peut changer en restant fidèle à nos valeurs.
D'accord. En t'écoutant, je me demandais quand est venu le désir de l'entrepreneuriat, parce que de ton parcours, du parcours que je connais,
oui.
Tu as été entrepreneur très tôt.
Pas si tôt que ça.
Pas si tôt que ça.
Non.
D'accord.
Non, c'était une idée que j'avais dans la tête parce que j'avais envie d'être indépendante et puis j'avais un médecin qui m'a dit « Oh, toi, t'es vraiment indépendante, tu n'iras pas dans le salariat ». Sauf que finalement, à la sortie de l'école, je suis allée dans le salariat parce qu'en fait, c'était, à l'époque, c'était pas du tout, entre guillemets, tendance, même, c'était même pas. C'est que je trouvais ça sérieux d'aller dans une entreprise et d'avoir un salaire. Et c'était pour ça que j'avais fait une école d'ailleurs. Bon. Et donc, j'ai fait ça pendant 20 ans, 10 ans dans la banque et 10 ans dans la distribution. Moi, j'ai trouvé ça très bien, très intéressant. De toute façon, c'est vrai que j'avais quand même un profil d'entrepreneur parce que je n'ai pas fait vraiment les filières classiques, en particulier dans la distribution. Et puis, je me sentais finalement à la fin de ces 20 ans dans l'entreprise, je me sentais en profil contraint, j'avais pas le sentiment de pouvoir m'exprimer pleinement. C'est-à-dire que j'avais toujours des idées, mais qui débordaient de mon poste. Et donc ça, c'est pas bien du tout en entreprise, parce qu'en fait, ça gêne les gens qui ont le poste. Voilà, et donc, une fois que j'ai fait ce constat-là, je me suis dit, il faut que j'aille voir ailleurs. Et puis, il y avait aussi l'histoire du plafond de verre. C'est-à-dire que quand on est femme, et moi, j'approchais quand même de la quarantaine, c'est les postes de pouvoir. Et les postes de pouvoir, je sentais que, j'étais directeur financier d'une filiale du groupe Galeries Lafayette qui s'appelait Laser. Et j'étais directeur financier, je m'occupais des affaires financières, des trucs super, hein, franchement, des body deals, etc. Je me suis toujours bien amusée, mais je n'ai jamais eu le titre de directeur financier. Et donc, je me suis dit, ça, c'est quand même un signe, il faut que je l'entende. Et donc, ça veut dire que mon plafond de verre se rapproche bigrement. Et je me suis dit, non, je n'ai pas envie de me l'exploser, je n'ai pas envie de me casser la tête. Et donc, je vais prendre un autre chemin. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris un autre chemin. Puis, j'étais jeune maman à l'époque. Donc, c'est à ce moment-là que je suis devenue entrepreneur. Et que comme il y a eu cette histoire que moi, j'ai qualifiée de plafond vert à l'époque, c'est vrai que tout de suite, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat féminin. Et c'était quand même dans les années 2000. Donc, à l'époque, on n'en parlait pas du tout comme on en parle maintenant. Donc, moi, la première fois, quand je me suis intéressée à ça et que j'ai présenté... un incubateur au féminin au maire du 8e arrondissement, il s'est demandé si je lui disais pas des grossièretés. À l'époque, je trouvais que c'était important de montrer que les femmes, elles pouvaient avoir de l'ambition et innover, quoi. On en parlait déjà de l'entrepreneuriat féminin. Mais on en parlait, c'était retour à son propre emploi, l'indépendance financière, le microcrédit, oh là. Bon, tout ça, c'est très bien. Hein. Moi, j'ai rien contre le truc. C'était que c'était important aussi de montrer que les femmes, elles pouvaient être ailleurs. Elles pouvaient être dans la tech, elles pouvaient être dans l'innovation, elles pouvaient être dans des tas d'endroits. Voilà.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu veux accompagner les entrepreneurs?
Bah aujourd'hui, je veux toujours accompagner les entrepreneurs. En fait, je crois que c'est mon ADN. Finalement, je suis contente qu'on ait développé nos associations pionnières qui sont devenues premières, etc. Mais moi, finalement, comme en étant à la tête de ce truc-là, je me suis transformée en enleveuse de fonds pour mes associations et j'étais beaucoup moins proche des entrepreneurs. Et en fait, là, avec FinCoach aujourd'hui, je suis avec les entrepreneurs. Et vraiment, c'est ce que j'aime faire. Au fond, c'est ce que j'aime faire, transmettre la confiance en soi, transmettre le goût de l'innovation et puis transmettre l'idée d'être indépendant financièrement. Voilà.
Ça, c'est un sujet, l'indépendance financière des femmes. D'ailleurs, je crois que le gouvernement prépare un projet de loi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour convaincre les femmes que l'indépendance financière est importante?
Déjà, je trouve qu'il y a des chiffres qui sont quand même parlants. Celles qui ne comprennent pas que la pension de réversion, ça ne va pas suffire à vivre, parce qu'en fait, ça existe dans les deux sens. C'est-à-dire et qu'aujourd'hui, il y a quand même un taux de divorce qui est suffisamment important pour que les femmes se rendent compte que quand elles arrivent à la retraite, l'écart des retraites, c'est de 65%. Les écarts de salaire, on parle de 10, 20, 30% en fonction des statistiques. L'arrivée à la retraite, c'est moins 65%. Donc oui, c'est drôlement important. Et tous les sujets des violences faites aux femmes, tous ces sujets-là, en fait, ils passent par l'indépendance financière, ils passent par l'égalité financière. Voilà. Alors, moi, j'ai rencontré, il y a quelques années, des féministes qui disaient « Moi, je revendique le droit d'allaiter mon enfant, de ne pas travailler. » Je dis « Ah, c'est une bonne idée. » À ce moment-là, soit tu es héritière, soit tu as épousé le prince charmant. Mais tu sais que le prince charmant, ça ne dure pas toujours toute une vie. Donc, mais continue, tu as raison. Mais voilà, enfin bon, pour moi, c'est du bon sens. Donc, j'aime bien les choses simples. Voilà, donc si on dit ton mari meurt ou il te plaque, c'est fini quoi.
Oui,
ça arrive, non?
Oui, c'est direct, non, mais je suis à fond, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je me suis rendu compte pour avoir tenté à un moment donné, et j'espère que je le ferai un jour, écrire un livre avec des expertes, dont d'ailleurs j'avais pensé à toi, je voulais te solliciter là-dessus, sur les femmes et l'argent.
Ah, c'est intéressant, hein.
Bon, c'est un projet qui n'a pas encore abouti.
Oui.
Mais je me suis dit qu'il y avait quand même un sujet autour de la représentation qu'on avait de l'argent.
Oui.
Et la représentation que les femmes s'en faisaient.
Voilà. Oui. Alors, on a pas mal de femmes qui viennent dans notre programme entrepreneur-entrepreneuse. On a bien mis entrepreneur, hein, pourtant. On a quelques hommes là qui viennent, donc je suis contente. Mais on a beaucoup de femmes et c'est vrai que ça reste un sujet, c'est fou. Donc ça, c'est vraiment un de nos sujets parce qu'on travaille beaucoup les savoir-être aussi, surtout au démarrage du programme, pour chasser les tabous. Et en fait, on a encore, nous, des tabous, mais quand on dit ça, il faut faire attention parce que c'est pas forcément nous qui nous les imposons. Nous, il faut qu'on s'en débarrasse de ces tabous, mais c'est des tabous qui sont imposés parfois aussi en partie par l'environnement. Donc c'est à nous d'agir, mais c'est pas à nous de nous culpabiliser, si tu vois ce que je veux dire.
Je vois.
Tu vois? Donc voilà, je crois que c'est important. Il y a des mots comme argent, il y a des mots comme pouvoir. Moi, je leur dis, c'est jouissif d'envoyer une facture. C'est jouissif. Parce que ça veut dire qu'on est fier de ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'on est content d'avoir fait ce qu'on a fait, qu'on sait qu'on a produit de la valeur. Voilà. Donc, moi, je travaille beaucoup ça sur l'accompagnement.
On a produit de la valeur parce qu'on a de la valeur.
Parce qu'on a de la valeur. Donc, c'est la prise de conscience qu'on a de la valeur.
Et l'ambition, hein, tu parlais de...
Ah, l'ambition, bien sûr. Et l'ambition, c'est pas la même chose que l'arrivisme. Pour moi, l'ambition, c'est un très joli mot. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie de faire des choses grandes, là. Oui, c'est important de se dire oui, je suis ambitieuse, oui, pourquoi pas, oui, je suis ambitieuse, j'ai envie de faire des choses bien, pas que pour moi, pour mon petit monde, j'ai envie de faire des choses qui auront un impact aussi dans l'ensemble du monde. Alors après, j'ai lancé une news là il n'y a pas longtemps, ça s'appelait Nous sommes tous des colibris. Mais un colibri, ça peut faire des grandes choses. Et c'est en fait chacun à notre mesure qu'on va fabriquer le monde de demain. Donc l'ambition, c'est ça, c'est aussi se dire on tend vers un monde meilleur demain, ensemble. Et donc, ce qui veut dire que prendre conscience de sa puissance quelque part, c'est pas que égoïste. C'est aussi de se dire oui, je peux faire des choses, c'est très motivant. Parce qu'en fait, on se dit oui, je peux faire aussi des choses pour les autres ou pour la planète ou pour ci, pour ça. Bon, voilà.
Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen
carrément.
De réaliser ses rêves, peut-être aussi d'ailleurs.
Oui.
De les rendre concrets.
Oui.
Et de changer le monde.
Oui, complètement. Et après, je crois aussi qu'il y a une marge pour l'intrapreneuriat, surtout dans les périodes qui arrivent aujourd'hui, dans les entreprises. Les entreprises sont en train de bouger. Et ce que je te disais, tu sais, au début, sur le fait que les entreprises aujourd'hui, elles se rendent compte que l'âme du lieu, c'est plus compliqué à gérer. Et, ça veut dire qu'il va falloir... probablement pour fédérer les personnes d'une entreprise, c'est des personnes qui sont autour d'une même raison sociale ou d'une même raison d'être. Et donc, il faut vraiment que cette raison d'être soit puissante pour fédérer les personnes. Alors, est-ce que c'est le sens ? On en parle beaucoup du sens, où chacun trouve le sens dans son entreprise. Oui, enfin, c'est tout ça à la fois. Donc, il y a tout un travail autour de ça, je crois. Et puis, l'entrepreneuriat, évidemment, c'est aussi une façon de prendre son indépendance. Mais... la liberté, ça peut passer par le salariat, hein. Aussi. Non, mais c'est... voilà, donc chacun son chemin. Je n'ai pas de jugement de valeur, si tu veux. Ouais. Tu vois, je ne dis pas il faut qu'on soit tous entrepreneurs. Mais chacun peut être entrepreneur de sa vie. C'est-à-dire qu'au sein d'un monde de contraintes, on peut faire des tas de choses. Et en étant bien dans ses pompes, finalement, on s'autorise à faire toutes ces choses-là. Je sais pas si c'est clair.
Si, c'est clair. Parce que je voulais te demander comment tu articulais liberté et salariat, mais je pense que, effectivement, tu as répondu.
Ouais.
On peut très bien développer dans son entreprise des projets auxquels on croit,
ouais.
fédérer des équipes et embarquer des salariés vers une vision d'entreprise et des projets. Ouais.
Là, tu vois, je vais recevoir, tu sais, j'anime un club qui s'appelle Film Coach le Club, et je reçois là en mars une femme qui s'appelle Claire Martin. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une femme qui a fait toute sa carrière dans le groupe Renault. C'est elle qui a emmené Renault sur le Women's Forum. C'est elle qui a démarré la RSE dans le groupe Renault. C'est une femme qui a réussi à faire des tas de choses dans son entreprise et à bouger les lignes dans son entreprise. Donc elle a été entrepreneuse dans son entreprise. Le fait de ne pas avoir de hiérarchie, c'est pas neutre non plus. Mais ne pas avoir de hiérarchie, ça veut dire qu'il faut attraper son chiffre tous les mois. Donc, c'est des choses...
Et ça demande quelle qualité, ça, d'aller chercher ses clients ?
D'aller chercher ses clients, je crois que le principal secret, c'est de s'intéresser à l'autre, essayer de comprendre quel est le besoin. Et puis, je m'attache énormément à la qualité. C'est-à-dire, au fond, moi, je veux que mes clients soient contents. Et donc, je fais tout pour qu'ils soient contents. Parce que d'abord, moi, je suis contente aussi. Et puis, c'est le meilleur moyen de... C'est le meilleur moyen de... C'est l'écoute, au fond. C'est l'écoute. Et la réactivité. Quand il y a un besoin qui est exprimé, il faut... Voilà. Pour moi, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, il faut savoir parler de soi. Je crois que c'est important de savoir qui on est pour pouvoir aider les autres. Donc, savoir parler de soi.
Et toi, tu sais parler de toi ?
On apprend toujours. C'est une quête sans fin.
quelle est l'audace dont tu es la plus fière ?
L'audace dont je suis la plus fière, c'est d'avoir eu cette intuition des pionnières. Vraiment. Et je l'ai eu grâce à l'ancêtre de Shinley. C'est-à-dire qu'en fait, je venais d'arrêter de travailler dans les grandes entreprises et j'ai posé tous mes rêves Pierre m'a dit, faut que tu rencontres Pierre, mon mari me dit, il faut que tu rencontres Bruno Pagès. Et j'ai travaillé sur mes rêves. Voilà. Donc il y avait plein de trucs. Et ça a donné, à un moment, ça a donné les pionnières, c'est-à-dire l'histoire du plafond de verre, l'entrepreneuriat, et construire un monde à son image, donc l'indépendance financière. Voilà. Donc j'en suis fière parce qu'au-delà du projet, qui a prospéré, mais très vite en fait, ça a été comme un. Voilà, enfin, ça a été vraiment. Ça allait très vite. Et à tel point que nos camarades nous disaient oh, non, non, c'est un feu de paille, nos camarades masculins. Donc, on a été les premières à mettre la qualité aussi dans notre incubateur. Donc, donc ça a été. Et au-delà du succès du projet, je crois qu'en fait, on a éveillé vraiment les consciences. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas son réseau féminin, il n'y a pas un incubateur qui ne travaille pas sur la mixité, il n'y a pas. Tout le monde est sur ce sujet-là. La chasse de tête, les conseils, enfin bref. Donc, je crois qu'on a participé à un élan général. En tout cas, on a allumé une petite mèche et puis, ouit, ça c'est bien. Donc, je suis très contente de ça. Et ouais, c'est l'audace, c'est une intuition. Une intuition, c'était pas simple, hein. Il y avait quand même des grosses barrières à l'entrée, il fallait quand même avoir un local important pour démarrer. Voilà, on n'avait que notre. On n'avait pas d'argent pour le démarrer d'ailleurs, et donc on avait une équipe et un pouvoir de conviction, et en fait ça a fait ce que ça a fait, ce qui est vraiment extra. Donc je suis vachement contente de ça. Je suis contente d'avoir accepté la proposition de Fleur Pellerin à un moment où c'était vraiment difficile de la présidence de l'agent pour la création d'entreprise. Je me suis évidemment, comme beaucoup de femmes, on se dit « Oh là là, mais moi, je vais faire ça !» Oula. Bon, mais je l'ai fait et j'étais vraiment contente de l'avoir fait. Voilà, c'est ça dont je suis, je pense, le plus fière. Et puis aujourd'hui, je suis très... heureuse d'avoir relancé mon activité Fin Coach privée et d'avoir rencontré entre guillemets une tribu très chouette. Voilà.
Est-ce que tu pourrais juste dire en deux mots pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les premières qui sont devenues les pionnières?
Oui. Non, c'est les pionnières.
Les pionnières qui sont devenues les premières.
Donc en fait, on a monté Paris Pionnière, donc le premier incubateur à Paris.
Oui. C'était en quelle année?
C'était en 2003. Les statuts datent du 16 décembre 2003 et on a ouvert les portes le 8 mars 2005. D'accord. Donc il y a
16 ans.
16 ans, exactement. Ouais, c'est ça, il y a 16 ans. Et donc ça, on a été tout de suite repéré par l'OCDE. Qui nous a emmenés un peu à droite, à gauche, dans les pays où il y avait des sujets sur les femmes entrepreneurs et surtout pour l'indépendance des femmes. Donc, il y a eu des réunions au Maroc, des réunions en Turquie. Et on a tout de suite sympathisé avec des Marocaines qui sont devenues des amies, qui ont monté Casa Pionnière. Et à ce moment-là, on a commencé à intéresser le ministre de l'époque qui s'appelait Hervé Novelli. Qui s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas des Paris Pionnières dans toute la France? On lui a dit, pas de problème, mais on n'a pas de sous. Et voilà, c'est un ministre qui a tenu ses promesses, qui nous a aidé à développer le réseau très vite.
Question sur les loyautés, tu m'as dit tout à l'heure, on a abordé le sujet des loyautés.
Oui, c'est un mot que je trouve... moi, j'aime beaucoup la loyauté.
Comment tu la définirais?
C'est être fidèle à soi, fidèle à ses valeurs, fidèle aux personnes qu'on aime, quelle que soit leur situation. Pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment s'intéresser aux identités plus qu'au statut aussi, la loyauté. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, qui n'est pas toujours très, très tendance dans les hauts lieux du pouvoir, hein, ce que je trouve vraiment dommage. Parce que... après, il y en a des très belles, hein, des loyautés, hein, dans les lieux de pouvoir aussi, mais c'est pas toujours le cas. Enfin bref, donc moi, mes loyautés, mon mari, ça fait 40 ans qu'on est mariés, donc on a des parcours, voilà, on se rencontre de temps en temps, voilà. Donc c'est quelque chose d'important, en tout cas c'est un support absolument énorme, parce que je me sens. C'est une loyauté fait qui finalement me donne de la force, quoi. Et de la liberté. Donc c'est intéressant de mettre ces deux mots-là en phase. Loyauté bah, à ma mère que j'ai accompagnée jusqu'au dernier moment, donc ça c'est très important. Loyauté à moi-même, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de mentir ou. Voilà. Donc je trouve que c'est très très important. La loyauté, c'est quelque chose qui fait que je pense qu'on est bien ancré, on est bien stable. Voilà. Le contraire de la loyauté, c'est la traîtrise quand même. Hein. Bon. C'est moche, non?
Oui, mais ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver.
Hein. Ouais.
Ouais. Alors oui, ça arrive de toute façon, mais alors ce que je me dis, bah, en fait, une personne qu'on découvre, entre guillemets, traître, elle ne vaut pas, elle n'a pas d'intérêt quelque part. Donc moi, en fait, maintenant, j'ai acquis une technique qui fait que bon, je donne tout et si je me sens trahie, je lâche tout. Donc ouais, ma loyauté a des limites, c'est-à-dire que si je me sens entre guillemets trahi, bah ok, salut. Je vais ailleurs. Je vais là où c'est beau. J'aime bien.
L'esthétique, la beauté.
L'esthétique, la beauté, oui.
Et tu la trouves où, la beauté?
Bah, la beauté intérieure et la beauté extérieure, la beauté dans la nature, la beauté dans les villes aussi. Il y a vraiment des belles choses dans les villes. La beauté dans les êtres. Il y a beaucoup de voilà, dans les animaux. Toi, c'est sympa ta question d'animal totem. Mm.
Est-ce que tu pourrais juste... J'ai deux questions pour terminer. La première, c'est est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a intéressé dans Shinley?
Shinley, je trouve que de démarrer de ses rêves, c'est juste fabuleux. Parce que c'est justement ça qui nous tire vers le beau, le bon. Donc, chez Shinley, il y a plusieurs choses. C'est le fait d'être attiré par le positif, de se dire on se projette vers le futur dont on a envie, puisqu'en fait on part de ses rêves. Donc ça c'est très bien, ça met dans une dynamique très positive. Et la deuxième chose qui me plaît et pour laquelle j'ai fait l'école Shinley, ce qui s'appelle l'école Shinley, c'est que moi, ça m'a vraiment aidé à trouver des nouveaux horizons, puisqu'en fait, les pionnières sont issues d'une première réflexion Shinley, l'ancêtre de Shinley, et que c'est sympa de se dire, bah, on peut le faire, on peut permettre à d'autres d'accéder à ça, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est que c'est extrêmement structuré. C'est très bizarre, parce que ça associe vraiment le cerveau gauche et le cerveau droit. Et moi, je ne suis pas particulièrement structurée. Je suis structurée, mais je me fie tellement à mon intuition que je ne suis pas toujours dans la méthode. Et là, en fait, c'est pour moi une contrainte qui est extrêmement bénéfique. Donc,
ouais, voilà. Parce qu'il y a un cadre.
Voilà, c'est dans un cadre. Et en fait, le fait de dire à une personne qui est un peu en transition, de dire, écoute, voilà, je peux t'accompagner, tu as 7 séances. Et au bout de 7 séances, tu sauras vraiment qui tu es et où tu as envie d'aller. Et tu auras déjà fait tes premiers pas. Il y a un début, il y a une fin. Et je trouve ça formidable. Voilà.
Mmh. Ok, bien résumé, super. Et avant de nous quitter, alors, en fait, je me demandais, quel est ton projet qui te motive le plus, là, dans les prochains mois? Tu as envie de faire quoi?
Voilà, moi, j'ai toujours été pilotée par l'équilibre. L'équilibre vie perso, vie pro. Mon projet, alors, donc, perso, c'est vraiment faire vivre des maisons que j'aime. Donc, voilà, des maisons que j'aime. Et donc, j'ai envie de les faire vivre. Un moulin en Touraine, voilà. Et de continuer bon, mon activité. Enfin, voilà, j'ai envie d'avoir formé de chouettes entrepreneurs et entrepreneuses d'ici la fin de l'année, par exemple, et d'avoir aussi du temps pour profiter de la nature, des patrimoines, et voilà, patrimoine bien commun et bien privé, les deux, en général.
Merci Frédéric.
Voilà.